Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Couleur Chartreuse, votre radio locale associative, dans votre émission Place aux idées, l'émission qui met en avant les initiatives citoyennes sur notre joli territoire. Et aujourd'hui, dans cette émission, les Entremonts Environnement, avec deux personnes au sein des studios du Grand Son de Radio Couleur Chartreuse, ici à Saint-Laurent-du-Pont. Tout d'abord, Brigitte Bianassi, bonjour Brigitte.
Bonjour.
Et également avec nous en studio, Laurent Levreux, bonjour.
Bonjour.
Merci à tous les deux d'être là. Donc, on va parler avec vous d'Entremonts Environnement, les Entremonts Environnement, dans cette émission spéciale. On va en savoir un petit peu plus donc, sur l'association, le collectif, qui veut nous parler, nous décrire un petit peu déjà tout ça.
Donc, l'association a été créée en 2019 par des riverains, en fait, à Épernay, donc le centre d'Entremont-le-Vieux. Et en fait, l'association s'est saisie en fait, des impacts des effluents de la CAF coopérative laitière, et donc à la fois en termes de pollution du cours d'eau, du causon, et à la fois en termes d'odeur.
D'accord, donc il y avait un souci par rapport à la COP.
Exactement, on se questionnait. Alors d'une part, des odeurs qui étaient plutôt très désagréables pour les riverains, et puis d'autre part, vous imaginez bien aussi les rejets de la CAF coopérative qui étaient faits directement ou quasi directement dans le causon. Et donc, des questionnements par rapport aux impacts que ça pouvait avoir sur la rivière et sur les habitants de la rivière.
Alors parce qu'il y avait des défauts de fabrication, il y avait un défaut d'évacuation, il y avait une raison particulière.
Il y avait un système d'épuration au départ qui s'est révélé pas adapté, trop technique, et du coup qui n'était plus efficace et qui a été obligé d'être bypassé, donc qui n'était plus utilisé. Et donc, il y avait une recherche de solutions, mais qui n'était pas évident, quoi.
D'accord. Donc, c'est parti de là, donc collectif qui se monte à ce moment-là. Donc ça, c'était en quelle année ?
C'était en 2019. D'accord. Et du coup, la particularité de l'association, hein, c'est bien les Entremonts Environnement. Donc, c'est en fait le périmètre, on va dire, de l'association, c'est bien la vallée des Entremonts. Donc, les quatre communes de la vallée des Entremonts, donc Corbeil, Entremont-le-Vieux, Saint-Pierre-d'Entremont-Savoie et Saint-Pierre-d'Entremont-Isère. Donc en fait, la commune œuvre sur ce territoire pour la défense, l'information, la sensibilisation des habitants de la vallée sur des questions d'environnement et sur des questions de santé également.
Donc ça, c'est pour un peu la présentation de cette association. Vous êtes combien dans l'asso ?
Alors on est une vingtaine d'adhérents, un peu plus d'une vingtaine d'adhérents, quasi 25, une cinquantaine de sympathisants. Et on va dire que suivant les sujets qu'on aborde, on est entre 8 et 10 membres actifs suivant les sujets abordés, quoi.
Et puis je voulais laissez vous présenter peut-être. Alors Brigitte, si vous voulez prendre le relais, qui êtes-vous, si on veut en savoir un petit peu plus sur vous aussi?
Donc moi, j'habite à Saint-Pierre-d'Entremont et j'ai adhéré à l'association dès sa création. En fait, à l'époque, j'étais maire de Saint-Pierre-d'Entremont et je pensais intéressant que des citoyens se réunissent puisqu'ils avaient essayé d'œuvrer quand même individuellement. Et en fait, tant qu'ils n'étaient pas organisés en association, on leur rétorquait que bien, ils ne représentaient que leurs chaussettes et que ce n'était pas légitime à intervenir. Donc, ils se sont organisés en association, ce qui permettait de saisir les différentes instances, d'avoir une capacité à intervenir auprès des décideurs et des institutions dans le territoire. Donc moi, même en étant maire, je trouvais ça intéressant de me rapprocher de cette association, et ne serait-ce que pour comprendre, expliquer aussi les difficultés qu'il pouvait y avoir à gérer ces problèmes-là et les faire plutôt en concertation. Voilà, donc ensuite, quand l'association s'est renouvelée, assez naturellement, j'ai rejoint à nouveau ça, et sur des problématiques larges et qui sont vraiment liées au territoire, puisque ça peut être, comme Laurent parlait tout à l'heure, d'une antenne de télécommunication au désert, mais ça, on a parlé aussi de la question du bruit des motos dans la vallée, de la pollution de l'eau, de la pollution de l'air, et puis de l'alimentation assez naturellement, quoi.
Ok, et vous Laurent, racontez-nous un petit peu cette sensibilité là à l'environnement, d'où est-ce que ça vient ?
J'ai cheminé, comme beaucoup de personnes, sur ces thématiques, mais on va dire que ma transition, on peut la dater de 2006, donc une vingtaine d'années maintenant, où j'ai pris conscience de l'importance de ce que je pouvais faire au quotidien pour ma santé et celle de mes proches. J'ai été formé en naturopathie en 2007, j'ai été formé à la santé environnementale en 2017.
Alors la naturopathie, pour ceux qui nous écoutent là, on peut expliquer un peu.
Alors c'est préserver ou retrouver la santé au moyen de remèdes naturels. Voilà, c'est okay. Ça la naturopathie en quelques mots. Et puis formée donc en santé environnementale en 2017, la santé environnementale, elle vise à identifier les polluants du quotidien dans notre environnement. Et ces polluants, bah, souvent, ont un impact à la fois sur notre santé, mais aussi sur notre environnement. Donc voilà, c'est vraiment avoir conscience de ça. Et puis, j'essaye depuis une vingtaine d'années maintenant d'aligner un petit peu cette prise de conscience hein, et des choix personnels avec bah, aussi des choix professionnels, puisque aujourd'hui, je fais du conseil et de l'accompagnement en couches lavables. Donc voilà, j'essaye d'aligner ma vie professionnelle avec ma vie personnelle et que c'est vraiment du sens.
Alors justement, parler de couches lavables, ça me fait penser que dans le pays voironnais, il y a pas mal d'ateliers, etc. Sur cette thématique.
Exactement. Ce sont des ateliers que j'ai animés à destination des familles jusqu'à l'an dernier. Là, j'ai passé la main à Laurie et Émilie qui font ça également très bien. D'accord. Et moi, je reste sur la thématique au niveau de la sensibilisation des professionnels, donc au niveau des crèches, des relais petite enfance. Voilà. Donc, effectivement.
Et il y a un peu d'écho chez nous en Chartreuse parce que j'ai l'impression que par rapport à la com-com par là, on ne voit pas forcément d'ateliers ou d'initiations en couches lavables, etc.
Non, mais il y a quand même une petite sensibilité au niveau de la com-com. Ça avance tout doucement. J'ai des contacts avec la 4C, avec la communauté de communes. Du coup, je suis intervenu d'ailleurs au moins une fois, voire même à deux reprises sur les salons bien-être et grandir. Je sais plus exactement l'intitulé du salon, mais en tout cas, effectivement, on m'a sollicité plusieurs fois sur le
bon, bah, c'est chouette, ça.
C'est en réflexion d'aller.
On se reverra peut-être du coup, pour parler d'autres choses qui se passeront ici en cœur de Chartreuse.
Pourquoi pas.
On est là pour en faire écho. Brigitte, oui.
Oui, je voulais ajouter en fait que c'est vrai qu'on habite dans la montagne où tout est vert, ça a l'air d'être idyllique et en fait les préoccupations autour de la santé, de la biodiversité et de l'environnement, elles sont quand même importantes parce que c'est pas parce qu'on habite à la campagne qu'on est respectueux de son milieu et du milieu qui est naturel qui nous entoure. Donc c'est d'autant plus important et intéressant d'avancer sur ces sujets et d'arriver à faire de la sensibilisation.
Alors justement, là, d'année en année, l'évolution faisant aussi et la société avançant avec, est-ce que vous constatez un appétit, j'allais dire, grandissant pour ces questions environnementales, de faire attention à notre espace de vie, le bien commun, etc.
Moi, j'ai envie de dire, alors ce que je trouve intéressant dans ce qu'a dit Brigitte, en fait, et dans son implication dans l'association dès le début, c'est qu'en fait, elle s'est impliquée en sa qualité de maire, en fait. Hein. Elle est venue en se disant, moi, je suis intéressé par le fait que certains habitants s'impliquent et se questionnent sur ces questions. Et finalement, quoi de mieux que d'aller au sein de l'association pour dire, voilà, qu'est-ce qui se joue et comment, en tant qu'élu, on peut peut-être agir ou réfléchir à comment agir avec les habitants. Moi, je pense qu'effectivement, qu'il y a une préoccupation grandissante. Hein. On voit à travers des sondages, à travers une préoccupation grandissante des habitants.
Alors, des jeunes et des moins jeunes, peut-être, parce que les jeunes sont aussi beaucoup plus sensibilisés à l'environnement aussi qu'à une certaine époque.
Bien entendu, oui. Ouais, je pense que c'est une préoccupation qui est assez transversale. Hein, Au-delà de l'âge, au-delà aussi peut-être des catégories sociales, même si effectivement c'est plus facile pour certaines catégories sociales peut-être d'être préoccupées par ce genre de questions. Mais en tout cas, une préoccupation grandissante. Et moi, j'ai envie de dire que globalement, au-delà du contexte local, hein, mais on pourrait aussi peut-être en parler au niveau du contexte local, mais c'est peut-être un déphasage entre les préoccupations des habitants et les enjeux et les prises de position des politiques. Hein, au sens noble du terme, parce que c'est souvent des sujets qui sont clivants, qui sont sensibles, et que c'est difficile de s'engager sur ces questions-là. Malgré tout, on voit qu'au niveau national, des associations comme des ONG, hein, comme Génération Future ou d'autres, ont aussi interpellé des élus, et que finalement, on se rend compte que très peu répondent, en fait, à ces interpellations, et c'est quand même questionnant. C'est quand même questionnant.
Oui, parce que c'est une question qui concerne l'environnement, enfin tous, quoi, j'allais dire. Mais on a l'impression que c'est un sujet où il faut y aller vraiment marcher avec des œufs. Et il y en a même qui disent qui n'abordent même pas la question, quoi, parce que de peur, on ne sait pas quoi d'ailleurs.
Ben, on voit bien aussi qu'on arrive à devoir remettre en cause des pratiques et on nous dit, mais on a toujours fait comme ça. Bah, oui, peut-être, mais.
Est-ce la bonne solution?
Et puis le monde change, on voit bien comment les problématiques de l'eau sont présentes en Chartreuse alors qu'avant elles ne l'étaient pas du tout. Et que du coup, ben, ce qu'on rejette dans les rivières, il faut faire plus attention qu'avant. Donc on ne peut pas jeter du fumier dans la rivière, on ne peut pas laisser des tas de fumier en bordure de rivière, mais on a toujours fait comme ça. Donc du coup, il va falloir expliquer pourquoi ça pose problème et veiller à ce qu'on ne fasse plus ça, on fasse autrement, quoi.
Oui, le tout, c'est d'arriver à discuter discuter. C'est là où ça devient pas forcément si facile que ça, finalement. Arriver à amener la discussion pour essayer de faire évoluer les choses. C'est un peu ça, votre but au niveau de l'association, j'imagine aussi, et du collectif.
Oui, c'est ça. C'est essayer de se mettre autour d'une table et de discuter et de réfléchir en concertation et de se dire comment on peut faire avancer les choses. Aujourd'hui, alors on peut paraître quelquefois aux yeux de certains comme des militants écolos ou des bobos écolos, hein, okay. Mais en tout cas, la question n'est pas là. En fait, c'est pour nous, c'est des vraies questions de santé publique. Aujourd'hui, il y a suffisamment de rapports ou d'études scientifiques qui viennent appuyer ce qu'on met en avant. Et finalement, c'est bien plus ça le plus important. Finalement, notre légitimité, eh ben, on la tire de ça. Puisque, en fait, on s'entend trop souvent de dire « Mais qui est-ce que vous représentez ? Combien de personnes vous représentez ?» Pour moi, la question, elle ne se pose pas en ces termes-là. Peu importe combien de personnes, c'est que ce sont des questions de santé publique. Et ces questions de santé publique, eh ben, on a envie, nous, de les mettre aujourd'hui sur la table pour que tout le monde s'en préoccupe. Et je pense qu'il y a un gros effort à faire et certainement que ce sera un des rôles qu'on aura à jouer dans les prochains mois ou les prochaines années. Mais un gros effort de communication pour sensibiliser les habitants et autant que possible que nos élus nous suivent, en fait, dans ce qu'on met en avant.
Eh bien, écoutez, on va se retrouver dans un instant. Vous avez évoqué, esquissé la problématique d'une antenne tout à l'heure. Donc là, on va approfondir un petit peu la chose. Vous allez nous en parler un petit peu plus sur le désert d'Entremont. Pour l'instant, petite pause musicale avec un son que vous avez choisi. Hein. C'est Michel Vega et le Big Bazar. Qui a choisi cette chanson et pourquoi ?
Alors, c'est moi qui l'ai choisi. Et en fait, je l'ai réécouté un an ou deux, et j'ai trouvé que les sujets abordés dans cette chanson étaient hyper actuels, et du coup, alors c'est à la fois festif, mais ça met en avant un monde où il y a moins de camions, où on peut boire l'eau des rivières, enfin voilà, je vous invite à écouter bien consciencieusement les paroles, et vous allez être surpris.
Eh bien, on s'écoute ça, et puis on se retrouve juste après sur Radio Couleur Chartreuse, dans votre émission Place aux idées, avec aujourd'hui les Entremonts Environnement. À tout de suite.
Changé ce matin, je n'y comprends rien.
C'est la fête, la fête.
Jeunes et vieux, grands et petits, on est tous amis.
C'est la fête, la fête. C'est comme un grand coup de soleil, un vent de folie. Rien n'est plus pareil aujourd'hui. Le monde mort et enterré a ressuscité.
Qu'on va tous à pied.
C'est la fête, la fête.
Le pain et le vin sont gratuits et les fleurs aussi.
C'est la fête, la fête. C'est comme un grand coup de soleil.
Qui joue,
qui rigole et qui casse le cou, qui n'ont plus peur du loup.
Et l'eau, c'est vraiment de l'eau que l'on peut pas entre des ruisseaux. Venez danser dans la rue, ce n'est plus défendu.
C'est la fête, la fête.
En vérité, je vous
c'est la fête, la fête. C'est comme un grand coup de soleil, un vent de folie. Rien n'est plus pareil aujourd'hui. On a les yeux écarquillés sur la liberté. Et la liberté, c'est la fête, la fête.
Ah, 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 ah.
Nous sommes de retour sur Radio Couleur Chartreuse, votre radio locale associative, toujours en compagnie de Brigitte et de Laurent dans les studios du Grand Son d'RCC. Donc, on continue, deuxième partie. On l'a évoqué un petit peu, on l'a survolé tout à l'heure. Vous avez parlé d'une antenne téléphonique sur le désert d'Entremont. Alors, si on peut juste revenir sur justement ce projet, le pourquoi, du comment, quel problème ?
Alors, en fait, la question de l'implantation de cette antenne sur le désert d'Entremont, en fait, il faut resituer ça dans le contexte du programme New Deal, en fait. Hein. C'est un programme national, en fait, qui est mis en place par l'État. Et ce programme, en fait, est en place pour couvrir les zones blanches. Donc, en toute logique, ouvrir des zones blanches, c'est à la demande de la commune et des habitants, pour le coup. Et pour le coup, là, on a été saisis donc, par des habitants donc, du hameau du désert, donc à Entremont-le-Vieux, qui se sont inquiétés, tout du moins questionnés, après une réunion publique qui a eu lieu en octobre 2024, qui se sont questionnés, effectivement, sur la pertinence d'une antenne, en fait, au désert d'Entremont. Donc, l'association venait tout juste de renaître de ses cendres, hein, puisqu'elle a été en dormance pendant quelques années, hein, de 2020-21 jusqu'en 2024. Et du coup, pourquoi ces habitants se sont questionnés ? Eh bien, en fait, c'était de savoir est-ce qu'il y a vraiment une utilité ? Et c'est vraiment ça qui a, dont l'association s'est saisie en premier lieu. Il s'avère que si on consulte les données de l'ARCEP, hein, qui est un petit peu le gendarme des télécommunications en France, eh bien, que le taux de couverture est plutôt satisfaisant, voire même très satisfaisant. Donc, on ne peut pas être considéré comme une zone blanche et voire même pas comme une zone grise. Donc, voilà, la première des questions, c'est pourquoi est-ce qu'on a ce projet aujourd'hui qui sort des cartons. Donc ça, c'était la première chose. Pour conforter ça, en fait, l'association s'est amusée à faire ses propres relevés de connectivité, hein, avec des téléphones en plus qui étaient moyennement performants. En tout cas, on a constaté que sur tous les points qui étaient soi-disant des points un petit peu noirs, eh ben, il y avait de la connectivité. Hein, aujourd'hui, il faut bien comprendre que les habitants du désert ne sont pas coupés du monde. Hein. Ils ont a priori tous un téléphone portable, enfin, pour ceux qui sont en âge d'avoir un téléphone portable, qui a des professionnels, hein, du tourisme notamment, mais aussi des professionnels des agriculteurs, hein, qui sont connectés, qui ont un téléphone, et que jusqu'à ce jour, on ne peut pas dire qu'il y ait réellement de gros problèmes de connectivité.
Alors justement, la demande... disiez que c'était par rapport à des habitants qui avaient fait remonter l'information, comme quoi il y avait des problèmes. Mais du coup, ça remontait peut-être à un petit peu plus loin. Et du coup, le temps que ça se mette en place, etc. Bon,
c'est certainement ça. En fait, on a questionné la mairie, dire mais d'où viennent ces demandes, de qui viennent ces demandes et à quelle date. Et on n'a jamais trop su nous répondre. C'était a priori plutôt des demandes verbales et pas écrites. Donc voilà, donc c'est vrai que ce qui était d'abord questionnant, c'est de se dire peut-être que cette demande, comme vous le dites assez justement, remontait certainement à 8, 9, voire 10 ans et que du coup, à aujourd'hui, peut-être que c'est plus justifié. Donc ça, c'était la première chose, le premier gros questionnement. Et puis le deuxième gros questionnement, c'était de se dire, mais quels vont être les impacts, en fait, de cette antenne ? Donc il y a vraiment des impacts qui ont été identifiés par l'association.
Appuyé par des personnes habilitées en technique, etc., j'imagine ?
En fait, on a essayé autant que possible de solliciter en fait, les institutions, donc le parc notamment, l'ONF, toutes les personnes qui pouvaient être habilitées à nous aider. J'avoue qu'on n'a pas eu beaucoup de réponses, mais en tout cas, nous, par nos propres recherches, on s'est affairé effectivement à regrouper des éléments et des études pour dire voilà ce qu'il en est, voilà ce qu'il en est notamment, ce qu'on peut craindre au niveau des impacts sanitaires notamment, voilà ce qu'on peut craindre au niveau des impacts paysagers. Et là, c'était simplement de se dire, aujourd'hui, le projet, c'est un pylône de 30 à 36 mètres de haut, avec une emprise au sol de 48 mètres carrés, donc c'est pas rien, avec des questionnements aussi par comment on va accéder effectivement à ce site en hiver, par quels moyens, c'est en pleine zone de pâturage. Donc voilà, il y a des vrais questionnements effectivement par rapport à cet impact paysager, par rapport à l'impact agricole, comme je viens de le citer, et par rapport aussi à l'impact environnemental, avec sur une des deux parcelles, on sait toujours pas en fait laquelle des parcelles sera définitivement retenue pour ce projet.
Parce que pour l'instant, c'est un projet qui est toujours en cours.
Oui, c'est un projet qui est toujours en cours.
À l'instant T où on enregistre cette émission, c'est-à-dire mars 2026.
Exactement, c'est un projet qui est toujours en cours. Et sur une des deux parcelles, on a énuméré à peu près 23 espèces en danger.
Alors, ce sont des parcelles d'agriculteurs ? C'est quoi comme genre de parcelles ?
Oui, ce sont des parcelles effectivement agricoles. Agricoles et boisées. Voilà, donc parcelles agricoles.
D'où votre intérêt d'aller interpeller l'ONF pour en savoir un peu plus.
Exactement.
Alors, vous avez parlé de risque tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous donner qu'est-ce qui avait été relevé comme potentiel risque pour la santé
Alors, pour la santé, c'est toujours délicat de mettre en avant des risques sanitaires quand on parle de téléphonie, parce que forcément, derrière ces questions-là, il y a des lobbying assez puissants. Il y a effectivement des institutions comme l'ANSES qui donnent des avis. D'ailleurs, récemment, l'ANSES a donné un avis qui allait plutôt dans le sens de rassurer en fait tout le monde. Je vous renverrai simplement
à une étude.
Ouais, à une étude et plutôt à une publication de l'ONG qui s'appelle PhoneGate, qui a justement remis en question le dernier rapport de l'ANSES, hein, qui est publié en novembre 2025. Et en fait, alors cette étude de l'ANSES, en fait, hein, c'est une étude sur la cancérogénicité, pardon, des ondes de radiofréquence. Et en fait, PhoneGate, en creusant effectivement et en allant un peu plus avant par rapport à cette étude, a vu que cette étude était le fruit d'une expertise qui était réellement compromise par des conflits d'intérêts. Donc c'est aussi questionnant de se dire, voilà, dans quelle mesure, effectivement, cette étude n'est pas biaisée. Du coup, cela, ça profite à quoi? Ça profite aux industriels de la téléphonie, quoi. Donc voilà, c'est toujours compliqué aujourd'hui de se positionner clairement sur ces effets. En tout cas, le rapport qui fait vraiment office aujourd'hui sur les effets sanitaires, c'est le rapport Bio-Initiative de 2007, qui a vraiment démontré qu'à des niveaux d'exposition très bas, on pouvait avoir des effets biologiques. Et du coup, voilà, il y a des études qui sont existantes. Ce rapport Bio-Initiative, il faut savoir qu'elle repose sur 1800 études, en fait. C'est la compilation de 1800 études. Pour nous, c'est vraiment questionnant. Des effets qui peuvent être sur l'humain, bien entendu, mais plus globalement sur le vivant. Et là, j'ai envie de vous renvoyer également à un documentaire qui sort récemment. C'est un documentaire qui s'appelle L'Omerta. L'Omerta qui est réalisé par Philippe Dussart. Et il est sorti fin d'année 2025. Et en fait, ce film, il retrace les calvaires qui sont vécus par Frédéric Salgue, qui est éleveur de bovins dans l'Allier, qui a vu ses vaches en fait produire moins de lait et dépérir à partir de juillet 2021 suite à l'installation d'une antenne 4G. Donc voilà, il y a suffisamment aujourd'hui d'éléments probants et de faits probants pour dire voilà, c'est questionnant. Mais encore une fois, encore faut-il pouvoir tenir compte de ces éléments et de se dire ok, il y a suffisamment d'éléments et de faisceaux qui sont rouges pour dire ok, on est prudent. Alors simplement pour vous dire, dans ce dossier de l'antenne de téléphonie, on a travaillé avec la mairie qui a été plutôt ouverte à la discussion au départ puisqu'on les a sollicités en décembre 2024. On a travaillé avec eux pendant au moins 6 ou 7 mois. Avait été prévu de mettre en place un site commun de l'association et de la mairie. Et puis en juin, revirement de situation, la mairie nous dit finalement on ne va pas mettre de site commun en ligne. L'idée du site commun, c'était qu'il y a un vrai débat contradictoire et des informations contradictoires en fait sur ce sujet-là. Et du coup, la mairie a décidé de passer, de consulter les habitants.
Ce qui est plutôt, pour la base, plutôt une bonne chose d'aller consulter les habitants.
Ce qui est plutôt une bonne chose. Sauf que nous, aujourd'hui, on remet un petit peu en question les modalités de la consultation, puisqu'en fait, la consultation était loin d'être complètement anonyme. Il n'y a pas eu de débat contradictoire. La partialité de la mairie, c'est-à-dire que la mairie s'est de suite positionnée en faveur du projet. Donc certains habitants nous ont même témoigné ne pas avoir osé voter à l'encontre de la mairie parce qu'en fait, ils auraient été classés. Ouais, c'est ça, comme opposant à la mairie.
Il fallait qu'ils donnent leur nom en plus.
Et en plus, il fallait qu'ils donnent leur nom. D'accord. Alors, il y avait un semblant d'anonymat parce qu'en fait, le bulletin, il y avait le nom et après, on découpait la partie nominative. Donc voilà, ça a été, voilà. Et on a même entendu dire que certains auraient voté pour toute leur famille puisqu'en fait, on pouvait déposer un tas de bulletins dans la boîte aux lettres ou en mairie sans que ce soit vraiment la personne, elle, qui ait voté. Donc voilà. Donc on a quand même remis en question un petit peu ces modalités de consultation, ce qui partait plutôt d'un bon sentiment. Et résultat des courses, effectivement, une majorité de la population a plutôt voté en faveur du projet. Et donc, il a été acté en conseil municipal de juillet 2025 que le projet allait être poursuivi et qu'il serait décidé de la parcelle sur laquelle allait être posée l'antenne.
Brigitte, une réaction là-dessus ?
Moi, je n'ai pas suivi de près ce sujet-là. J'étais plutôt observatrice. Effectivement, il y a des intentions qui sont à certains moments bonnes de la part de la collectivité. Et puis, il y a des retraits, il y a des reculs. Enfin, l'association est toujours mise devant le fait accompli. En fait, elle n'est pas vraiment partenaire ou partageant les décisions avec les élus. Bon, c'est un choix de l'équipe municipale, ça c'est sûr. Mais au-delà de ce sujet-là, se pose la question de toute intervention citoyenne qui va venir perturber les plans de l'équipe municipale en place et qui n'est pas bien reçue d'emblée, on va dire. C'est pas oui, on vous écoute et on a la capacité de revoir nos plans. Non, c'est d'emblée, vous êtes des opposants et on va vous écouter un peu. Mais finalement, on va faire ce qu'on avait prévu de faire, quoi. Donc, nous, ce qu'on aimerait, et c'est ce qu'on a fait là à l'occasion des élections municipales, c'est être force de proposition. Donc, à l'instar de plein d'associations au niveau national, on a travaillé collectivement pour établir un certain nombre de propositions qui vont des choses assez générales de sensibilisation, mais des choses assez concrètes. Par exemple, acheter des produits locaux bio ou paysans lors des événements communaux ou intercommunaux. Donc, ça, c'est assez facile à mesurer. C'est facile essentiel à mettre en place et ça n'appartient qu'aux élus de la collectivité. Et puis sur d'autres sujets, bien sûr que ce n'est pas ou tout noir ou tout blanc, mais comment on prévoit d'avancer pas à pas sur, par exemple, garantir des repas sains dans la restauration collective avec un objectif de 100% local ou bio et bio ou paysan. Donc ça, bien sûr qu'on sait bien que dans les cantines, il n'y aura pas tout de suite 100% bio, mais comment on avance là-dessus, comment on sensibilise à la fois les parents d'élèves, les enfants, le personnel de la cantine, les élus, à ces sujets-là et comment on montre que bio, ce n'est pas simplement pour faire joli dans le paysage, hein, c'est aussi assurer la santé de ceux qui mangent, mais aussi de ceux qui produisent. Hein. Les paysans sont quand même les premiers exposés aux pesticides et à tous les intrants chimiques qu'il y a dans les cultures et les élevages.
Alors, vous avez commencé la troisième partie, on est d'accord, si j'ai tout suivi. Donc, on va poursuivre dans un instant. Allez, deuxième chanson que vous avez choisie. Racontez-nous, qui c'est qui a choisi la deuxième chanson?
C'est Brigitte qui était aux commandes pour choisir les chansons. Donc,
Voilà, et dans les choix, donc...
On est dans la thématique. Hein.
Oui, c'est ça. C'était orienté sur comment on s'engage sur l'environnement. Et voilà, c'est une chanson qui est jolie et qui aborde bien ce sujet-là.
Eh bien, on s'écoute cette chanson et on se retrouve juste après sur l'antenne de Radio Couleur Chartreuse. À tout de suite. Nous sommes de retour sur l'antenne de Radio Couleur Chartreuse, votre radio de proximité associative, toujours en compagnie de Brigitte et de Laurent pour cette émission consacrée aux entremonts environnement. Voilà, toujours dans les studios du Grand Son ici à Saint-Laurent-du-Mont. Alors maintenant, on va parler des enjeux peut-être liés à la qualité de l'eau, de l'alimentation en général, même si on a un peu comme ça amorcé le sujet avec Brigitte, bien sûr. Parlez-nous de ces fameux enjeux. Qu'est-ce que vous avez constaté? Ça part de quoi, ce questionnement?
Ça part tout d'abord du fait qu'on a a consulté effectivement nos adhérents et nos sympathisants en disant voilà, quelles pourraient être les prochaines thématiques dont vous voudriez vous saisir. Et du coup, assez naturellement, l'eau est venue sur la table et l'alimentation. Et donc, on a décidé effectivement de se saisir de ces deux thématiques et de se dire finalement, est-ce que les prochaines élections municipales ne seraient pas l'occasion de mettre les pieds dans le plat et de mettre les pieds dans l'eau ? On a acté ça au mois d'octobre dernier lors d'une réunion. Et puis, on s'est vu deux fois, en décembre et en février, avec entre deux un document partagé en ligne pour que chacun puisse contribuer et y mettre ses idées.
Donc, c'était ouvert à tous, ce document ?
Alors, c'était ouvert aux sympathisants et aux adhérents de l'association.
D'accord. Hein.
Mais après, n'importe qui, comme l'a dit tout à l'heure assez justement Brigitte, n'importe qui peut adhérer à l'association et venir se préoccuper. Aujourd'hui, dans la liste de diffusion, il n'y a pas que des adhérents. Voilà, il y a des personnes qui ont dit « moi, je veux bien être informé ». Donc, quand je dis n'importe qui, ça peut être n'importe quelle association, n'importe quel autre élu. Enfin, voilà, tout le monde est ouvert. L'association est plutôt ouverte, effectivement, à la discussion et qu'on puisse co-construire ensemble sur des sujets tels que ceci. Et du coup, on a accouché de 12 propositions sur ces deux thématiques.
Productif.
Ouais, on a essayé de l'être et surtout, on s'est dit comment est-ce qu'on peut solliciter nos futurs élus, puisqu'en fait, il n'y a pas de suspense dans notre vallée, puisqu'en fait, il y a 4 listes. Donc, il y a une liste sur chacune des communes. Donc, il n'y aura pas de suspense, ils sont sûrs d'être élus. Donc, comment on peut saisir en fait les futurs candidats et candidates sur ces thématiques en leur proposant de s'engager sur nos propositions. Alors, on a créé un questionnaire expressément en ligne où ils ont l'occasion de s'engager sur une, sur deux, sur trois, sur 12, ou voire même sur 0 des propositions. Okay, voilà. On va dire que ce questionnaire est le mail qui leur a été envoyé. Alors, le mail a été envoyé plutôt aux têtes de liste, puisqu'on n'a pas les mails des 56 candidats dans notre vallée. En tout et pour tout, on devait peut-être avoir le mail de 10, 15 ou 20 maxime. On s'est dit, voilà, on passe par les têtes de liste. Et sur ces 56 candidats, à ce jour, on va dire qu'il y en a deux qui se sont exprimés, qui ont eu le courage de s'affranchir des listes de leurs colistiers, qui se sont exprimés sur nos propositions. Notre démarche, pour être honnête, a plutôt été perçue comme des injonctions, comme on a été qualifié de donneur d'ordre, de donneur de leçons, alors que voilà, alors on entend ça, mais c'était vraiment pas notre intention en fait. Notre intention, c'était de se dire, on a des propositions, on vous les soumet. Mettons-nous autour d'une table, voyons comment on peut avancer sur ces thématiques. Donc, tout à l'heure, Brigitte a cité deux des propositions, mais on pourra en citer d'autres. Par exemple, quelque chose d'assez symbolique. Est-ce que vous pourriez nommer, en fait, un adjoint en charge, entre autres, de la santé et de l'environnement ? Voilà, certainement que dans une équipe de 11, 12, 13, 15 personnes, qu'il y a bien une personne qui a cette sensibilité-là pour se dire « Ok, je veux bien me saisir de ces questions-là ». Une autre proposition, proposer des tarifs sociaux pour favoriser l'accès à une alimentation saine et durable. On pourrait très bien imaginer, effectivement, que les tarifs pour un accès à une alimentation saine et durable à la cantine pourraient être effectivement fixés en fonction des revenus des familles. Quoi. Hein, ça nous semblerait tout comme un peu dans l'esprit de ce qui a été mis en place par une association qui est dans notre vallée, l'ADEC. Hein. Aujourd'hui, il y a des paniers solidaires en fait, qui ont été mis en place, donc des paniers de produits bio. D'ailleurs, des paniers bio nous sont fournis par un de vos voisins ici, puisque c'est les Halles de Chartreuse.
Effectivement, salut Pauline et Robin. Du coup, voilà, passage.
Exactement, on les salue. Et du coup, l'idée, c'est de se dire, donc là, on a le soutien de la CAF pour le financement de ces paniers. Et l'idée de se dire, vous pouvez bénéficier de ces paniers d'une valeur de 15 euros, mais vous en bénéficiez en fonction de votre QF. Donc, vous allez payer entre 5 et 15 euros, suivant effectivement votre quotient familial. Donc, on pourrait très bien imaginer un système semblable pour un accès à une alimentation saine et durable. D'autant plus que ce n'est pas des propositions qui sont complètement surréalistes et utopiques. Hein. On sait qu'il y a d'autres communes en France qui l'ont mis en place depuis belle lurette. Donc voilà. Et encore une fois, ce qui nous motive, c'est de se dire, il y a un vrai enjeu de santé publique en fait. Chaque personne fait bien ce qu'il veut chez lui, à la maison, se nourrit bien comme il veut. Mais là, c'est de la responsabilité en fait, des élus de se dire qu'est-ce qu'on donne à manger aux enfants qui viennent fréquenter en fait notre cantine.
Brigitte, une réaction là-dessus ? Je suppose que vous êtes d'accord.
Oui, on est tout à fait d'accord. Et en fait, cette liste courte, 12 propositions, c'est pas énorme, une douzaine. On avait en fait plusieurs pages de propositions et on a trié, on a priorisé, on a essayé de faire que les propositions soient concrètes et faisables. Alors, pas toujours à la main immédiate des élus communaux. Par exemple, quand on parle d'implication citoyenne dans la gestion de l'eau, mais chaque commune, notamment dans les Entremonts, au moins pour 3 d'entre elles, l'eau potable est gérée par le syndicat, le SIAEB du Thiers. Toutes les communes ont des représentants dans ces structures. Donc, par ce biais-là, ils peuvent aussi porter des choses qui vont dans ce sens-là. La qualité de l'eau dans les cours d'eau, on a vu en travaillant avec les pêcheurs que l'eau sur le Causon, par exemple, il y a quelques petits soucis. hein, de pollution. Et on ne peut pas dire que c'est la chimie qui va polluer l'eau du Causon. Donc il y a forcément des produits qui sont déversés par, occasionnellement, accidentellement, et qui sont néfastes à la biodiversité dans la rivière. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on pourrait travailler ensemble avec les élus et l'association de pêcheurs, et puis les agriculteurs, hein, qui sont aussi aux premières loges par rapport au fumier ou au lisier qu'il pourrait y avoir et qui pourrait se déverser accidentellement, on va dire, dans la rivière, et qui sont très, très dommageables pour toute la biodiversité qu'il y a dans ces cours d'eau.
Alors justement, est-ce que vous avez des échanges avec les années qui passent? Est-ce qu'ils sont un peu plus sensibilisés à ces problématiques, à faire attention, etc.? Au niveau de la discussion, est-ce qu'il y a de la facilité dans l'échange, que ce soit avec les agriculteurs ou avec d'autres, avec des habitants? Est-ce qu'il y a une prise de conscience? Est-ce qu'il y a quelque chose?
C'est très variable. Il y a des personnes qui sont conscientes et d'autres, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire on a toujours fait ça, donc pourquoi on ne pourrait plus le faire? Et c'est pour ça que la première proposition qu'on a sur l'eau, c'est d'informer sur des conséquences du changement climatique sur la ressource en eau en Chartreuse. C'est-à-dire qu'on a l'impression que parce que la Chartreuse est verte, il y a plein d'eau. En fait, comme c'est un panier percé et que c'est un massif karstique, l'eau ne reste pas. Donc il a beau pleuvoir pendant 15 jours, un mois après, ça peut être la sécheresse pendant 3 mois. Donc,
on a connu le cas avec des communes où on a fait venir une citerne sur des communes ici en Chartreuse.
On a la chance d'avoir au parc des hydrogéologues, la station météo du col de Porte, qui pourrait très bien nous amener un certain nombre d'informations, de sensibilisation des habitants lors de réunions publiques. Enfin, moi, dans d'autres, que ce soit à travers l'ADEC ou dans une autre association dans laquelle j'étais, Avenir de l'eau en Chartreuse, on s'était intéressé au sujet et avec des scientifiques qui sont tout à fait prêts à venir exposer voilà ce qui se passe, et histoire de faire évoluer les consciences et que chacun se rende compte que l'eau, c'est un bien précieux, même dans un milieu où il semblerait qu'on en a toujours eu et qu'on en aura toujours. C'est plus vrai.
Est-ce que vous parliez de la collaboration, c'est ça, avec les pêcheurs?
Oui.
C'est ça, pour pouvoir justement analyser tout ça et avoir
D'ailleurs, l'association de pêche avait fait des analyses sur le Causon avec l'installation de crustacés pendant un certain temps, et ils mesuraient l'activité de ces crustacés, à leur capacité à grignoter des petites feuilles de je ne sais plus quelle variété d'arbre. Et du coup, on mesurait la qualité de l'eau en fonction de la résistance de ces petites crevettes. Et donc, ils ont montré que sur le Causon, il y avait quand même quelques soucis et que ça porte préjudice à toute cette biodiversité. Alors, si on touche les petits crustacés de l'eau, ça veut dire que, comme eux sont au départ de la chaîne alimentaire, ça va avoir des conséquences sur les poissons, sur les oiseaux.
Après, c'est toute la chaîne, effectivement.
Oui, c'est toute la chaîne qui ramasse.
Pour rebondir, sur ce qu'a dit Brigitte, et pour rebondir sur votre question, ce qui est vraiment important, effectivement, c'est pour nous, c'est cette concertation et de créer les conditions favorables à un partenariat et des réflexions communes. Si on prend l'exemple, alors l'idée, c'est pas non plus d'incriminer telle ou telle personne, ni les élus, ni les paysans, enfin voilà. Et en fait, c'est simplement de se dire qu'est-ce qu'on veut soutenir, qu'est-ce qu'on veut faciliter. Si je prends un autre exemple d'une de nos propositions, c'est soutenir l'installation, la conversion de paysans soit en agriculture biologique, soit en agriculture paysanne.
La différence entre les deux, là?
Alors, c'est qu'on ne veut pas non plus être taxé du fait d'être forcément des ayatollahs de l'agriculture biologique. Donc, c'est vrai qu'on peut très bien avoir des pratiques responsables.
Vrai que des fois, on voit haute valeur environnementale sur certains trucs.
Environnementale, il ne faut pas m'amener sur ce sujet-là, parce que je ne sais pas si on peut vraiment dire haute valeur environnementale.
En tout cas, on voit ça sur certains trucs.
Non, mais c'est intéressant. C'est comme l'agriculture raisonnée, pour moi. Est-ce que c'est raisonnable? C'est juste
c'est philosophique.
C'est juste qu'on peut traiter à certains moments de l'année, qu'on traite à certains moments, mais qu'on ne réduit pas le volume, en fait. C'est ça, en fait. Et la HVE, en fait, c'est très facile de l'obtenir, la haute valeur environnementale. Mais en tout cas, l'agriculture paysanne, c'est encore autre chose. C'est que c'est des paysans qui ont conscience qu'il faut préserver ce qui est leur outil de travail, en fait, la terre. Et si on préserve la terre, et si on cultive dans des conditions durables et responsables, et ben, du coup, on n'impacte pas non plus la santé. Voilà. Et pour autant, on veut
pas...
Mais ils
ne sont pas bio pour autant.
On a le droit de choisir notre label. On peut très bien avoir un label rouge et avoir conscience effectivement que il y a des pratiques qui sont pas ok et qui sont pas adaptées effectivement à une alimentation saine. Donc pour le coup, et ce qui est important aussi pour nous, parce qu'on le voit au travers aussi les manifestations des paysans ces dernières semaines, hein, c'est de se dire, OK, nous, on veut aussi avoir une rémunération juste. Et pour nous, ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire que nos paysans qui sont là pour nous nourrir ont le droit de pouvoir bénéficier d'une rémunération juste. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire favoriser aussi les circuits courts. Mais au-delà de ça, pour nous, ce n'est pas suffisant. C'est de se dire, OK, nous, on veut bien soutenir ces paysans. Mais pour autant, soutenons des paysans qui sont dans une démarche éco-responsable. Et donc là, c'est vraiment une question de pratique. Qu'est-ce qu'on fait de nos pratiques? Ce n'est pas parce que, comme l'a dit Brigitte, qu'on fait ça depuis des années. D'ailleurs, la plupart des paysans ont bien conscience que ce qu'ils font, quelquefois, c'est pas top, ni pour l'environnement, ni pour la santé. Mais en tout cas, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on peut accompagner? Et c'est vrai que la collectivité, les mairies ont aussi leur rôle à jouer, en fait. Se dire, OK, on peut soutenir. Et le meilleur moyen de soutenir, c'est de dire, OK, demain, on a pour objectif d'avoir des repas 100% bio ou paysans à l'école de la commune.
Bah, comment on accompagne
et
ça?
Comment on accompagne ça? Et comment on fait pour que ces produits-là soient fournis par du local, quoi? Donc, du coup, on aide effectivement les paysans qui sont motivés à y aller, en fait. Et qui, en plus, qui puissent se rémunérer à la hauteur du travail qu'ils fournissent, quoi. C'est ça qui est important. Et tout le monde va s'y retrouver. Mm-hmm. C'est ça le plus important, finalement.
Eh ben, en plus, on a un territoire qui est assez riche, en plus, en agriculture, et pas mal de choses, de marchés paysans aussi. Enfin, il y a quand même une bonne base, hein, j'allais dire. Donc là-dessus, je pense qu'il y a matière à faire. Après, comme vous le dites, il faut juste savoir se réunir, discuter, poser le problème entre guillemets, et puis voir ce qu'il est possible de faire pour modifier et améliorer tout ça collectivement.
Tout à fait.
C'est juste ça.
Ouais, c'est exactement ça.
Bon, bah voilà, le message est passé. Est-ce qu'on ferait pas une petite pause musicale et on se fait une dernière, justement, partie sur, peut-être, justement, la communication. Vers quoi on tend? Comment on s'y prend? Peut-être avec des réunions publiques, peut-être en allant vers les écoles, vers d'autres associations, un collectif d'assaut, enfin, je sais pas. On va en parler juste après une dernière pause musicale avec Zazie. Et son titre? Pourquoi ce titre, du coup, qui est sorti il y a quelques années maintenant? Ça
oui,
passe tellement
c'est
vite.
Pas, c'est pas une toute jeune chanson de Zazie, mais elle porte sur la place de l'homme et son évolution, dans son milieu. Donc, je trouvais que ça avait toute sa place dans la thématique de cette émission.
Eh bien, on se retrouve juste après. À tout de suite!
Je suis un homme de Cro-Magnon. Un singe ou un poisson sur la terre en toute saison. Moi je tourne en rond, je tourne en rond. Je suis un seul puis des millions. Je suis un homme au cœur de lion. À la guerre en toute saison. Moi je tourne en rond, je tourne en rond. Je suis un homme plein d'ambition. Belle voiture et belle maison. Dans la chambre, dans le salon. Moi je tourne en rond, je tourne en rond. Je fais l'amour et la révolution. Je fais le tour de la question. J'avance, avance à reculons. Oui, je tourne en rond, je tourne en rond. Tu vois, je suis pas un homme. Je suis le face.
Et nous sommes de retour dans cette dernière partie de votre émission Place aux idées sur Radio Couleur Chartreuse avec les Entremonts Environnement, toujours en compagnie de Brigitte et de Laurent pour cette dernière partie. Alors on va parler justement de la suite des prochaines étapes, puisqu'on a évoqué quelques sujets quand même dans cette émission, dans les studios du Grand Son. Donc les prochaines étapes, donc peut-être sur de la communication, de l'information, envers qui, les jeunes, les moins jeunes, des réunions publiques, entre associations, peut-être pour faire quelque chose de beaucoup plus collectif. Voilà, racontez-nous un petit peu ce que vous avez en tête et projeté.
On se rend compte qu'effectivement, on est sur des préoccupations environnementales sur les Entremonts, mais qu'autour, il y a aussi d'autres associations qui essayent d'agir et qui essayent de faire monter la mayonnaise pour que les citoyens se saisissent des sujets qui les concernent. Et là, notamment dans la période, il y a une association de Saint-Joseph-de-Rivière qui a lancé le projet, l'initiative Chartreuse 2030, et avec une petite poignée de militants, ils ont mobilisé un grand nombre de personnes sur tout le territoire. L'idée étant de voir quelles sont les préoccupations, comment on s'y prend, et les deux sujets, c'est-à-dire sur quoi ça porte, les thématiques, et là on va retrouver l'eau et l'alimentation notamment, mais aussi comment on s'y prend, c'est-à-dire en termes de démocratie participative, comment les citoyens s'impliquent et comment les élus ou nos représentants, puisqu'il ne faut pas oublier que les élus sont nos représentants, comment ils intègrent cette dimension-là dans leur gouvernance, on va dire, quotidienne tout au long du mandat. Et donc, on a participé aux réunions de ce collectif et c'est ces genres d'initiatives qu'on va poursuivre pour chercher des moyens de converger. Alors ça peut être des réunions publiques, ça peut être des émissions de radio, ça peut être faire des stands sur les événements de notre territoire, ça peut être visible lors des forums des associations, qu'il y a un peu de partout, travailler avec d'autres associations sur ces préoccupations. Je pense notamment au collectif contre le Lyon-Turin, puisque Saint-Thibault va être touché, qui est sur la communauté de communes, ou France Nature Environnement, qui est elle-même une structure de rassemblement d'une multitude d'associations sur le sujet de l'environnement. Enfin voilà, là, on n'a pas complètement construit notre façon de communiquer et d'enclencher l'étape d'après. Et c'est en réflexion et on est autour de ces questions-là.
Et vous êtes à l'écoute d'autres au cas où pour monter des choses en commun aussi, donc à faire.
Oui, et puis ça pourrait être des ateliers ou des... Oui, pourquoi pas faire venir des intervenants sur... On a sur le territoire aussi des ressources. Il y a une hydrogéologue qui habite à La Beauche qui avait fait une réunion sur l'eau à Saint-Pierre-de-Genebro. On pourrait très bien la faire venir dans les Entremonts. Enfin, il faut qu'on arrive à mettre tout ça noir sur blanc, qu'on programme, qu'on structure et qu'on fasse à la hauteur de nos besoins, mais en étant assez ambitieux pour que les choses bougent, quoi.
Mais pour que ça puisse se faire.
Voilà.
C'est vrai qu'il faut être ambitieux, mais en même temps, il faut que ça soit réalisable sur nos territoires. C'est ça qui est important. Laurent, une réaction ?
Oui, en fait, je vais tout à fait dans le sens de ce que vient de dire Brigitte. C'est-à-dire que je pense qu'on aurait vraiment intérêt à faire que convergent en fait toutes ces initiatives. Alors pour le coup, nous, on est vraiment sur des thématiques santé-environnement. Le collectif, je crois que c'était le collectif « C'est pour aujourd'hui, c'est pour demain » de Saint-Joseph de Rivière est beaucoup plus sur des préoccupations un peu plus larges, de démocratie, etc. Mais finalement, tout ça, ça se recoupe.
Ça se rejoint au bout d'un moment.
Et puis, on se retrouve sur la plupart des sujets qui sont évoqués. Mais je pense qu'on aurait à gagner, effectivement, à faire converger tout ça et à se dire comment est-ce qu'on peut agir à la fois au niveau de notre territoire, de la communauté de communes, parce que c'est important. Comment est-ce qu'on peut emmener avec nous des élus, des associations, des habitants. Et puis, l'enjeu, bien entendu, pour nous... plutôt au niveau de la vallée des Entremonts, c'est aussi de se dire comment est-ce qu'on peut continuer à sensibiliser, à informer, ou plutôt commencer à sensibiliser ou informer, ou continuer, peu importe. Mais les habitants, effectivement, à une alimentation plus saine, à une eau plus saine et durable. Et ça, ça a imaginé ensemble de se dire quelles actions on pourrait mener au quotidien. Parce que certaines personnes, mais c'est parce qu'on est tous différents, certaines personnes sont plutôt dans des positions plutôt passives et attendent qu'on leur amène l'information. D'autres, comme nous, peut-être, on va plus à la recherche d'informations. Donc du coup, c'est peut-être se dire qu'on a un gros boulot à faire du point de vue pédagogique. Peut-être aller vers les écoles, comme vous l'avez dit. Peut-être aller vers les parents, qui sont forcément tous préoccupés par la santé et la qualité de l'alimentation qui est servie dans les cantines. Donc c'est vraiment important d'imaginer imaginer ensemble quelles pourraient être les actions les plus pertinentes. Et encore une fois, avec cette volonté, et on espère vraiment qu'ils seront ouverts à la discussion, cette volonté aussi de, bah, d'emmener avec nous les élus. On va dire que cette tentative-là, avec nos sollicitations, avec nos 12 propositions sur l'alimentation et l'eau, n'a pas eu les résultats qu'on pouvait escompter au départ. Mais en tout cas, ça a au moins eu le mérite de poser le décor. Dire voilà, pour nous, nos préoccupations et nos propositions, elles sont celles-ci. On va se tenir tout au long du mandat, des 6 prochaines années, même au-delà, hein, des 7, des 10 ou des 15 ou des 20, peu importe. On va se tenir à ces propositions. Et en tout cas, nous, on va faire avancer cette thématique avec vous ou sans vous. Mais on préférerait que ça soit avec vous.
Bah oui, le mieux, c'est ensemble. Quand même,
exactement. Mais ceci dit, on ne pourra pas non plus aller les chercher et puis tous les jours les tirer par la chemise en disant voilà, on vous attend quoi. En même temps, on a plutôt quand même des signes positifs de quelques élus, hein, ceux qui ont voulu s'exprimer, mais d'autres qui n'ont pas voulu s'exprimer pour ne pas se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de leurs colistiers. Donc du coup, on sait qu'on aura quelque part, au moins sur 2, on va dire, des 4 communes, on aura des relais, hein, ça c'est certain. Parce qu'on les sait, être sensible aussi aux questions qu'on porte et parce qu'ils nous l'ont dit. Donc voilà, mais l'idée, c'est effectivement qu'on puisse travailler sur un pied d'égalité, hein, puisqu'en fait, comme l'a dit assez justement Brigitte, en fait, ce sont nos représentants. Hein, et ce n'est pas sous prétexte qu'on a un mandat pour 6 ans ou pour 7 ans, et finalement que les citoyens, finalement, ne vont plus du tout être à l'écoute de ce qu'ils ont à nous dire, en fait. Hein, puisqu'en 6 ans, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer et que du coup, encore une fois, tout ce qu'on a mis sur la table là, au sujet de l'alimentation et de l'eau, on s'est appuyé sur des études, sur des opinions de sondage, etc. Donc on sait qu'une majorité, une grosse majorité de Français tend vers une meilleure qualité de l'alimentation et de l'eau. Et après, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Et qu'est-ce qu'on fait ensemble ?
Bah c'est ça, la petite graine elle est plantée, j'allais dire, il n'y a plus qu'à la laisser pousser et que tout le monde s'en empare.
C'est ça.
Voilà,
c'est
ça pour, là je regardais les notes que j'avais prises dans la réunion de février de Chartreuse 2030, à quel point les convergences avec nos propositions sont énormes, puisque dans les 4 sujets qui arrivaient en premier, le premier c'était agriculture et alimentation souveraine. Le deuxième, c'était fonctionnement démocratique. Et ex aequo derrière, l'eau et les déchets, et la santé, solidarité, éducation. Nos propositions, elles tombent pas du ciel, quoi. Elles sont vraiment partagées sur le territoire. Enfin, c'est assez naturel qu'on puisse porter ce genre de propositions, en fait.
Ça reflète bien tout ça. Oui. On arrive déjà au terme de l'émission. Ça passe très vite. Alors, on va renvoyer peut-être vers un site internet pour pouvoir justement retrouver les informations dont on a besoin, dont les auditeurs pourraient avoir besoin. Qui veut nous donner tout ça ? C'est Laurent, peut-être.
Entremont avec un S, environnement.org.
Entremont-environnement.org.
Ouais, c'est ça.
Eh bien, super. Merci beaucoup à tous les deux pour cette émission. Place aux idées, ici, dans les studios du Grand Son de Radio Couleur Chartreuse. Merci, Brigitte.
Merci.
Merci, Laurent.
Merci.
Et puis, écoutez, bonne continuation, bonne vie. Puis, à une prochaine, sans doute, hein, sur les ondes d'RCC.
Très bien.
À très bientôt.
À bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. Et vous pourrez réécouter cette émission tranquillement chez vous. Ou ailleurs, ça se passe sur radiocc.fr. Bonne journée à tous.
Puisqu'il faut changer les choses. Oh.